Bonjour et bienvenue pour votre émission Le Café Citoyen, proposé en partenariat avec la MJC Espace Elios de Lambreuil-Douai. Un café citoyen enregistré à la médiathèque de la MJC le samedi 2 avril 2022 sur le thème l'abstention bonne ou mauvaise idée. Je vous propose de retrouver la deuxième partie de ce café citoyen.
L'abstention est un objet politique qui sert quelques-uns. C'est-à-dire que de fait, pour certains, en effet, c'est pas gênant qu'il y ait une abstention à chaque élection parce que ça les maintient au pouvoir aisément. On sait que malgré tout, même s'il n'y a pas une abstention mais des abstentions, il y a quand même un profil sociologique majoritaire, c'est que c'est les catégories populaires qui souvent s'abstiennent davantage. Et ces catégories populaires, on le voit bien, c'est ce qu'aujourd'hui essaient d'aller chercher et Le Pen et Mélenchon, parce que c'est eux qui sont les premières victimes de cette abstention sans doute massive sur les présidentielles qui vont arriver, en tout cas massive au regard de la présidentielle, pas au regard des autres élections malheureusement. Mais ça, par exemple, un candidat comme Macron, lui, c'est surtout ce qu'il ne voudrait pas, que quelque part le peuple s'en mêle. Donc il y a cette logique-là. Mais il y a aussi une responsabilité des politiques de façon générale et des partis de ne plus s'intéresser à ces catégories populaires. Tout à l'heure, on parlait des grèves du mouvement ouvrier, mais ça fait combien de temps que, y compris à gauche, que ce soit le PS, mais même le PC, ne s'est plus intéressé au monde ouvrier, qu'on n'a plus d'élus qui viennent du monde ouvrier. Ça aussi, en termes de représentativité, quelque part, il y a un déficit démocratique qui est assez important. Les employés, les ouvriers, c'est plus de 50% du monde du travail. À l'Assemblée nationale, je crois que c'est 5%. Ouais, c'est... Voilà, donc il y a une faute. Et sur l'individualisation du vote, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que après, il ne faut pas être naïf non plus. Il ne faut pas se dire que les élus, c'est tous pourris et les gens, ils sont tous gentils et bons. Moi, quand j'ai mené campagne dernièrement, j'avais plus de questions sur bah, « Alors, qu'est-ce que vous faites pour moi ? Je veux une maison, je veux un boulot. » J'ai rarement eu deux. Qu'est-ce que vous faites pour la ville? Qu'est-ce que vous faites pour mon quartier? Qu'est-ce que vous faites pour l'intérêt général? Et je peux vous dire que le ratio, c'est 90-10.
Ils ont été habitués à ce clientélisme aussi.
Ah ouais. Voilà. Sur le monde ouvrier, peut-être, c'est peut-être parce que le monde ouvrier n'existe plus tel qu'il était avant. Oui. Moi, mon grand-père, c'était quelqu'un qui pouvait décider que son patron était un salaud, prendre sa musette et trouver du boulot ailleurs sans problème. Un ouvrier aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aura peut-être un contrat, peut-être renouvelé, et à qui on va mener la carotte devant le museau jusqu'à ce qu'il en crève, quoi.
Oui, bah en fait, je voulais rebondir sur ce que disait François. En fait, pour moi, ce côté « qu'est-ce que vous faites pour moi ?», ça traduit aussi un autre problème qui, pour moi, est assez important, c'est la précarité dans laquelle beaucoup de nos concitoyens se trouvent. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait plus d'engagement. Mais aussi, autrefois, quand votre patron, il vous malmenait, bah, en fait, vous quittiez votre boulot, vous partiez ailleurs. Moi, c'est ce que je vis aujourd'hui. J'ai la chance d'être dans un métier où, en fait, il y a le plein emploi et il y a même des grosses difficultés à recruter. Bon, en fait, je change tous les 2 ans. Quand mon patron, il commence à me saouler, bah, je change. Et en fait, c'est aussi un peu pour ça que je me suis engagé en politique suite à la crise des Gilets jaunes, parce que je me suis dit, le problème, c'est que ces personnes-là, elles sont dans une telle précarité que, après, la pyramide de Maslow, en fait, on peut dire, on en dit ce qu'on en veut, apparemment, c'est pas hyper scientifique, mais malgré tout, quand même, quand votre préoccupation, c'est de savoir est-ce que vous allez manger, est-ce que vous allez avoir un emploi, est-ce que vous allez réussir à vous intégrer dans la société, bah, effectivement, quand vous avez un homme politique en face de vous, une femme politique, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui demander ce qu'elle peut faire pour vous. Et en réalité, c'est pour ça qu'il y a des initiatives qui sont intéressantes, du genre le revenu citoyen, le congé de participation à la démocratie, c'est-à-dire que bah, pourquoi pas dire bah, vous avez le droit à 2-3 jours pour aller dans telle manif, dans telle organisation, pour aller dans tel conseil. Parce que, bon, par exemple, je peux donner un exemple concret. Souvent, malheureusement, dans les mairies, quand vous allez faire un atelier citoyen, quand vous allez consulter les gens, bah, ça va se faire à 16h, à 17h. À 16h, à 17h, bah, les gens qui travaillent ne sont pas là, les gens vont chercher leurs enfants. Et en fait, il faudrait effectivement qu'il y ait moins de précarité en réalité. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que plus il y a de précarité, moins d'engagement, et moins d'engagement, plus il y a de précarité, comme disait François, effectivement, c'est plus les personnes qui pourraient bénéficier du fait d'aller voter qui, en fait, sont pénalisées par les politiques actuelles des personnes qui sont en poste.
Moi, je voulais aller aussi dans le même sens que disait aussi François, c'est qu'on constate qu'il y a une abstention importante dans toutes les classes populaires et puis les gens précaires, c'est sûr, et les politiques recherchent les voix des gens qui vont voter. Or, ces gens-là ne votent plus. et donc ils vont adapter leur programme en fonction de leurs électeurs. Et donc c'est pas étonnant que tous les besoins de ces catégories-là ne soient plus exprimés, quoi, et ne soient plus, et donc qui provoquent ensuite des mouvements comme celui des Gilets jaunes, quoi.
Et le danger, c'est peut-être aussi justement d'aller les chercher au moment de l'élection avec des promesses qu'on ne va pas tenir. Et donc là, je rebondis sur effectivement ce que propose Marine Le Pen et puis parfois d'autres formations politiques. C'est qu'effectivement, il ne s'agit pas d'aller chercher les gens au niveau des élections. Il s'agit d'aller les chercher sur le long cours en faisant un travail de terrain. Il faudrait que les hommes politiques, les femmes politiques soient toujours en campagne et pas uniquement quand il s'agit d'être élus.
Le Café Citoyen avec la MJC Espace Hélios de Lombres-les-Doués et Radio Scarpe Sensée.
Enregistré le 2 avril 2022, l'abstention, mauvaise ou bonne idée ?
Je trouve aussi que, ce qui me frappe de plus en plus, c'est par exemple la complexité, le développé des programmes qui sont proposés. C'est-à-dire, maintenant, on parle de chiffrage, du chiffrage, c'est pas assez précis, etc. Moi, c'est des choses qui me sautent, qui me passent par-dessus la tête, parce que j'ai pas vraiment l'impression que ce soit ça le rôle d'une présidentielle. Et les programmes trop développés ne sont pas forcément les meilleurs. Moi, je trouve qu'une qualité qu'il faudrait développer, c'est ce qu'on appelle quelquefois maintenant, dans certains thèmes de communication, l'agilité. Parce que à quoi ont été confrontés les présidents de la République ces derniers temps, enfin, le pays à travers eux ? C'est quand même des choses comme le terrorisme, actif sur le territoire, avant il était ailleurs, ça gênait personne, l'épidémie, avec ce que ça signifie une épidémie, film de Marie-Noël Robin à venir, c'est la question de, par exemple, des gilets jaunes, bon, mais c'est aussi récemment la question de la guerre en Ukraine. Disons que c'est plus sûr l'imprévu, l'imprévisible, qu'il faudrait trouver quelqu'un qui ait quelque chose à dire. Que ferais-je en cas d'imprévu, quoi ? C'est ça la question. Moi, je trouvais par exemple que sur le Covid, ça a été lamentable dans la première partie, relativement réglé quand l'État s'est remis un peu en place. Enfin, bon, et des choses comme ça, quoi. Le programme en tant que tel, on dit les promesses. Chirac, il avait exprimé tout. Il avait dit que les promesses n'engagent jamais que ceux qui les écoutent. Les vraies questions, c'est pas tellement qu'est-ce qu'on va faire tel jour, qu'est-ce que je fais pendant les 100 premiers jours maintenant. D'abord, je m'installe tout doucement.
Je suis pas du tout d'accord avec toi.
Bon, bah, d'accord.
On a quand même aujourd'hui des choix de société qui s'opposent clairement, quoi. Sur la question, ne serait-ce que de l'accueil, c'est un vrai choix. On peut pas me dire que la question de la préférence nationale n'est pas aujourd'hui au cœur d'un choix de société, quoi. On sait, avec tous les dangers que ça peut amener. Moi, l'universalisme, ça me parle. Et il y a des programmes qui sont contre ces notions et qui le disent clairement. Donc là, c'est quand même des choix qui sont forts et qui sont quand même au-delà de l'inattendu, des valeurs portées au moins. Et on sait où on va. Que de faire un choix de nucléaire ou de pas nucléaire, c'est des vrais choix. Voilà, donc c'est pas de l'imprévu, c'est du long terme. Une centrale nucléaire, c'est 60 ans. C'est pas de l'imprévu.
J'ai pas dit qu'il fallait pas de programme. Je dis simplement que les programmes aujourd'hui donnent l'impression d'être bien trop précis souvent et que, en fait, on devrait rester aux grandes idées, aux grandes. Ce qui fait, par exemple, ce qui a pu constituer la peine de mort pour la structuration de la gauche, par exemple, la suppression de la peine de mort, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui. Mais pour le reste, moi, je trouve que, par exemple, même sur les questions d'emploi, etc., on va dans des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on annonce comme ça. Et les gens attendent ça, mais c'est pas là-dessus que je suis d'accord avec toi qu'on discute des principes et notre capacité à être agile, plutôt que de discuter de programmes dans les détails et les chiffrages. Et
du point de vue économique, il faut quand même prendre des positions très argumentées pour envisager l'avenir. Donc les programmes, ils sont nécessairement, ils doivent être, à mon avis, bien étayés, mais ils ne sont pas précis, ils ne disent pas au jour le jour ce qui va se passer. Mais quand même, c'est des directions.
Il faut qu'ils soient réalistes, les programmes. Ah, bien sûr, il n'y en a pas de réalistes à l'heure actuelle.
Ah oui ? Je ne suis pas tout à fait d'accord, moi. Moi, à partir du moment où vous engagez... Bon, il y a quand même des choix de société, comme Hervé l'a dit, qui sont importants. Les services publics, où on les abandonne de plus en plus, et on complique la situation qu'on vit à l'heure actuelle dans les hôpitaux, dans la police, dans les, dans la société. Ou alors, ça, ceux qui font ce choix-là, ils se disent, on va supprimer des fonctionnaires, on va réduire les dépenses de l'État. On va supprimer des cotisations sociales. Or, les cotisations sociales, on leurre complètement les gens. Les cotisations sociales, c'est une partie du salaire. Et c'est une partie du salaire qui va vous revenir quand vous serez malade, quand vous serez, on aura besoin de vous opérer, etc. Or, si on en supprime, évidemment, on va supprimer des médecins, etc. Donc, c'est des choix de société précis. Par contre, si on dit en même temps, on impose de plus en plus les très grandes fortunes, enfin, qui gagnent des sommes incommensurables, c'est indécent, on rééquilibre une société. Donc, il y a bien des choix de sociétés qui sont définies dans les programmes. Il faut être réaliste. Et moi, je crois qu'il y en a qui sont réalistes.
Mais quand vous voyez, moi, je suis d'un milieu ouvrier. J'ai toujours fait, j'ai monté. Je vais vous parler d'une chose qu'en 2010, on a voulu fermer. La société est encore là. Hein. On s'est battu pour laver. C'est pour ça que je disais, tout le monde n'est pas pour le... On s'est battu pendant 17 jours, jour et nuit. Je peux vous le dire, la société, c'est une Gerson Rand. C'est un groupe américain. On s'est battu 17 jours, jour et nuit. Bon, maintenant, la société est là et la société tourne encore. Hein. Et ils font des bénéfices à tire-larigot. À l'heure actuelle, on dit, bah, on va vous dire, on va vous donner, comment ils appellent ça, les intérêts, les participations bénéfices, autant pour moi. J'ai fait partie du CSE. Maintenant, je suis en retraite depuis pas longtemps, il n'y a même pas un an. Mais je vous dis que des moments, c'est aberrant ce qu'on peut voir. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Mais le programme, moi, je suis pas certain que des gens... Si, moi, je vais vous dire. Je vais aller... Mais j'ai pas peur de le dire. Je vais aller voter PC. Monsieur Roussel. Parce que pour l'instant, c'est le seul... Je sais qu'il va rien faire. Il va peut-être même pas faire ses 5% pour récupérer sa campagne.
Le Café Citoyen avec la MJC Espace Hélios de Lambre-les-Doués et Radio Scarpe Sensé.
Enregistré le 2 avril 2022, l'abstention, mauvaise ou bonne idée?
Dans les élections, parce qu'on parle de ça, c'est le sujet, il y a les postulants qui ont des programmes et le mot employé c'est des promesses. À ce sujet, il y a un film qui est excellent, qui est sorti il y a quelques mois. Donc les promesses. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'élu, une fois qu'il arrive à son poste, il hérite du passé de son prédécesseur. Donc on hérite du passé, qu'il soit bon ou mauvais, et il faut faire avec. Et donc, s'il y a des choses qui sont engagées, et ben hop, ça va se poursuivre.
Ouais, mais en même temps, il y a des présidents qui se succèdent à eux-mêmes, et ils héritent de leur propre passé. Hein. Et on sait que généralement, le deuxième mandat, c'est pas forcément le meilleur.
Une des difficultés, c'est dans la forme de délégation de pouvoir. On a le sentiment aussi que le citoyen vote, mais ensuite, on ne lui demande plus rien. C'est-à-dire que finalement, c'est dans 5 ou 6 ans, on fait le bilan et puis c'est tout. Comme si pendant 5 ou 6 ans, finalement, il n'agissait plus. Un problème de notre démocratie, c'est que ça doit être permanent. Et de fait, d'avoir des moyens, c'est ce que je voulais dire dans ma première intervention, d'avoir des moyens d'intervenir et permettre quelque part l'irruption aussi d'une davantage de spontanéité de ces personnes qui sont non élues, mais qui comptent tout autant.
Le pire, c'est que tu vois, le palliatif à ça, comme on consulte plus, on donne des cotes de popularité, ce qui veut absolument rien dire. Voilà. Est-ce que vous en êtes satisfait ou pas? Mais ça répond en rien.
Ceux qui sont populaires, c'est ceux qui ont quitté les fonctions. Aujourd'hui, c'est Édouard Philippe, il y avait eu Nicolas Hulot. Voilà.
Il y a même eu Hollande.
Il y a même eu Hollande.
Alors moi, je ne me suis jamais abstenu jusqu'à présent. J'ai 75 ans passés. Et je suis l'héritier d'une famille Coco. Coco, j'avais un grand-père Coco, mais très engagé, qu'il fallait pas le contredire parce que vous preniez un coup de canne à travers la gueule. Et j'avais mon père qui était Coco aussi. Donc, je me suis engagé Coco. Hein. Et puis, j'ai réfléchi à un moment, je me suis senti pieds et mains liés. Et je me suis libéré. Je me suis libéré pour être libre, pour être vraiment libre. Et aujourd'hui, ben, je viens de voir un petit bouquin, La fin des haricots pour le grand méchant loup. Alors, je ne me suis jamais abstenu. Donc, au premier vote, je vais voter, c'est sûr. J'ai toujours voté, je vais voter, c'est sûr. Mais au deuxième vote, si c'est la fin des haricots pour le grand Mélenchon, je n'irai pas voter. Voilà. Je vais m'abstenir peut-être pour la première fois de ma vie.
Et moi, l'abstention est un geste politique.
Mais là, il faudrait qu'il y ait un vote blanc reconnu. Ouais. Voilà.
C'est-à-dire si on arrive dans la configuration du second tour, qui serait en 2022 le même que celui de 2017, la notion de barrage républicain fonctionnerait sans doute beaucoup moins. Et à mon avis, elle s'est commencée déjà à s'épuiser au fur et à mesure. Mais là, y a deux mouvements qui vont jouer... du coup, en faveur de Le Pen, si c'est elle qui est face à Macron. C'est un, je ne parle pas du fond, mais sur la forme, elle mène une bonne campagne. Il y a eu un candidat d'extrême droite qui est apparu et qui la normalise complètement. Et elle a des réserves de voix inouïes par rapport à d'habitude. Et deux, il y a, on a eu toute une partie des gens, qu'ils soient droite ou gauche d'ailleurs, qui n'ont pas forcément envie de voter Macron parce que quelque part, il la nourrit aussi. De par son attitude, on voit, il a tenté d'enjamber l'élection, pas de débat. Non mais ça, c'est quand même incroyable. Une élection, pas de débat. Ça paraît fou.
Au premier tour,
ça paraît fou. Il y en avait eu en 2017.
Il y a un homme...
Mais avant, il n'y en a pas eu.
Sarkozy. 2017, il y en a eu un parce que le sortant ne se représentait pas.
Mais il y a un autre dirigeant européen qui refuse le débat avec ses adversaires. C'est Orban, en Hongrie.
Alors du coup, je voulais juste préciser un truc... Je pense qu'il faut aller voter au second tour, quoi qu'il arrive. Voilà. Ça, c'est ce que je pense. Mais vraiment, quoi qu'il arrive, voter au second tour. Et même si c'est le moins pire, voter pour le moins pire. Selon votre propre jugement, je ne donne pas de... Mais je pense qu'il faut aller voter au second tour, c'est important. Après, sur la question programmatique sur laquelle je voudrais revenir, je pense que la communication, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Alors effectivement, les chiffrages, ce n'est peut-être pas de la bonne communication parce que qui aujourd'hui maîtrise les chiffres au niveau d'un État, à part quelques personnes à Bercy ou celles qui vont être fléchées à Bercy. Honnêtement, voilà, je pense que ça, c'est peut-être de la mauvaise communication. Par contre, je pense que, par exemple, qu'est-ce qu'on fait pendant les 100 premiers jours, quelles sont les actions qu'on va décliner, avoir un programme bien, bien précis. Je pense que c'est important parce qu'en réalité, l'idée, c'est pas tellement de dire on va le faire, on va pas le faire. L'idée, c'est de dire voilà ce qu'on pense et voilà pourquoi on pense aujourd'hui que c'est ça qu'il faut faire. Qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas après, qu'on change en fonction du contexte, au moins, on précise le mode de pensée, le schéma de pensée.
Donc, si le président actuel avait mené sa réforme de la retraite dans les 100 premiers jours, il eût été un meilleur président ?
Je pense pas, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas fait cette réforme de la retraite pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il n'arrivait pas à la faire passer. C'est pas qu'il voulait pas, c'est qu'il n'y est pas parvenu. Et en réalité, sans le Covid, peut-être qu'il l'aurait fait. Mais
donc s'il n'est pas parvenu, c'est que finalement le système fonctionne quand même plutôt bien malgré ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il soit peut-être un modèle éculé, pas suffisamment représentatif.
Alors je pense que heureusement que les gens qui font aujourd'hui des manifestations encore ont un certain poids et que ça a encore de la valeur de le faire aujourd'hui. Maintenant attention, je pense aussi que ce qui a freiné Emmanuel Macron, c'est aussi probablement sa réélection, les différentes élections qui ont été ponctuées. Donc, ce n'est pas que pour des bonnes raisons, ce n'est pas que parce qu'il a écouté le peuple. Je pense aujourd'hui aussi que, par exemple, les chèques carburant, ce n'est pas que parce qu'Emmanuel Macron a de l'empathie vis-à-vis des personnes qui sont dépendantes du pétrole, puisque en réalité, si Emmanuel Macron avait de l'empathie vis-à-vis des personnes qui dépendent du pétrole, il aurait décarboné la société, et ce, depuis 5 ans, il aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour décarboner la société. En réalité, aujourd'hui, Emmanuel Macron a fait tout ce qui était en son pouvoir pour casser le modèle social dans lequel nous vivons. Et on peut compter sur lui pour continuer 5 ans de plus, s'il venait à repasser. Je pense que ça, il n'y a pas d'équivoque là-dessus.
Moi, je voudrais opérer un changement de perspective, revenir au niveau de la commune et des élections, parce que ça m'arrive de dépouiller à l'occasion. Et je voudrais lancer ce message, votez. Même si vous votez blanc et venez au dépouillement, parce que c'est vraiment une expérience humaine intéressante. Moi, je trouve ça génial.
J'invite les cinéastes à venir trouver des idées pour leur scénario. Il y a des gags extraordinaires. Il y a des gars qui viennent vous serrer la main et qui s'aperçoivent que, merde, vous connaissez l'autre qui est leur adversaire et qui vient de vous serrer la main juste avant. Il y a des quiproquos. Et puis, il y a cette angoisse un peu du dépouillement et du comptage des voix. De temps en temps, vous entendez une bêtise qui est répétée par la personne qui dépouille. C'est la vôtre. Alors là, vous jouissez à fond. Ou vous en écoutez une autre encore plus drôle que la vôtre, parce que effectivement vous n'étiez pas content, vous avez préféré mettre une bêtise, voter les clowns ou quelque chose du style, que de voter pour l'un ou pour l'autre qui sera pas mieux ou pas pire. Voilà. Moi, il faut y aller, il faut redécouvrir, comme dans les brocantes, comme dans les associations, comme dans les festivals, comme dans tout ce que vous faites, la plupart d'entre vous, dans le domaine associatif, il faut redécouvrir le village gaulois. Et voilà, parce qu'on se perd, la cour de récré est beaucoup trop grande. On s'y perd dans les sondages, on s'y perd dans les grandes déclarations générales. Et je pense que quand les gens se rencontrent, comme on est en train de le faire maintenant, il y a toujours quelque chose qui se construit derrière. Ne fût-ce que dans les esprits et dans le fait qu'on va en reparler autour de nous, etc. Je pense qu'il faut continuer comme ça.
Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça poursuit ces soirs d'élection quand on est dans les bureaux, ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire que les gens parlent une fois le truc fini et que c'est 100 fois plus intéressant de parler à ce moment-là et d'échanger avec les autres plutôt que d'être dans le cul dans le canapé en train d'écouter la parole descendante des analystes politiques et puis des responsables. Ouais, voilà.
L'élection par elle-même, c'est un moment de non-indifférence, quoi. C'est un moment où on voit les gens qui sont en face de soi pour ce qu'ils sont, et puis on les accepte. Et c'est ça qui est important dans une société où tout le monde est dans sa bulle, je crois que c'est vous qui disiez ça, hein, sa bulle personnelle. On est là, on sent comme dans un collectif. Alors ça, la notion d'intérêt général, la notion de collectif, c'est deux notions qui se délitent complètement. Ça, c'est vraiment important de le faire.
Donc, il faut rendre le processus électoral joyeux.
Joyeux, ouais, moi ça me semble. Et puis mettre un peu d'humour peut-être dans les trucs, un peu de passion aussi, parce que ce qu'on aime bien avec Roussel par exemple, c'est qu'il a inventé des gags qui sont pas mal. Roussel, moi j'adore. Je trouve que ça c'est frais. Alors par ailleurs, je trouve extrêmement ringard quand il parle de nucléaire, mais ça c'est une opinion personnelle. Mais il faut inventer quelque chose qui permette aux gens aussi de revenir. Et moi je suis un peu frappé par ces émissions de télévision, j'en ai regardé deux ou trois là, où on a des écrans. Qui représente alors, oui, les écrans représentent le peuple. Ils sont comme ça, c'est sur Antenne 2, je crois ça. Et il y a des gens qui sont présentés comme les spécialistes absolus, les journalistes, comme si c'était ça la politique. Des gens qui sont dans les écrans, et puis quelqu'un au milieu qui est sous le grill, au sens où on attend la faute, qu'il fasse la faute. Moi, je trouve que ça, c'est, on ferait mieux d'éviter. Ça fait beaucoup de tort la démocratie, ça.
Moi, je pense comme Jackie, que le salut est dans la bonne humeur aussi. Parce que c'est tout ce qui nous reste, mais on l'a quand même. Et qui, moi, je préfère Capitaine Marlowe plutôt que Derrick, au final.
Radio Scarpe-Sensé, le café citoyen.
Enregistré le 2 avril 2022, l'abstention, mauvaise ou bonne idée ?
Mais le sujet de ce jour, c'est quand même l'abstention qui est le signe d'une indifférence de plus en plus croissante d'une partie de la population. Et ça, c'est pas joyeux. Si ça fonctionnait démocratiquement, il y aurait naturellement de la joie. S'il n'y a plus de joie, c'est parce qu'il y a trop de problèmes. Je veux dire, les gens qui sont dans les difficultés, comment peuvent-ils être joyeux à un moment d'élection alors qu'ils se rendent compte qu'on ne va pas tenir compte de leur... les aides soignants, tous les gens qu'on a portés au nu, qu'on a acclamés avec beaucoup d'hypocrisie, et ils sont toujours dans les mêmes situations. Ils revendiquent toujours les mêmes choses. Et est-ce qu'ils peuvent être joyeux au moment des élections ?
Non. Enfin, je voudrais te répondre. C'est pas la joie que je défends, moi, c'est l'humour. C'est l'humour. C'est l'humour. Et il faut aussi créer des occasions où on peut être joyeux, des occasions ludiques, etc. Mais je pense que l'humour, c'est intéressant. Je voudrais revenir sur l'image de la manif. Parce que justement, la manif, pour moi, c'est quelque chose d'horrible. Parce que... j'en fais frémir certains, c'est bien. Moi, je suis allé manifester à plusieurs reprises. Et la chose à laquelle je réfléchissais tout à l'heure avant de venir, c'est que c'est quelque chose d'un peu contre nature. Parce qu'on y va pour râler. Et puis, ça prend les allures d'une fête populaire. Alors, on n'est pas content. On est quand même content de voir que machin, il est venu avec nous, il est dans le bus et tout. Ouais. Ah, puis on reconnaît. Ah, eux, ils sont venus aussi. Ouais, super, bravo, bravo. Ouais, mais n'empêche qu'après on nous dit, bon alors attends, eux ils ont le drapeau rouge, ils sont là, ils ont le drapeau bleu, ils sont là, t'es pas trompé, t'es pas dans la bonne file, toi, et puis vous allez manifester, non c'est pas cette rue-là, c'est là et pas ailleurs, vous êtes pas dans le bon quartier, voilà, et puis je passe sur les accidents de la manif, mais au final ça finit avec des petites chansons un peu gaies, mais je trouve ça, enfin... C'est personnel, hein. Mais moi je trouve ça un peu forcé, quoi. C'est franchement pas le carnaval de Dunkerque, quoi. Donc, de rien, finalement, une grande frustration, l'impression qu'on m'a un peu mené en bateau. On a un peu sorti les enfants pour faire la fête, on a mis les masques, et puis c'est fini. Et puis, voilà. Donc, il y a des situations où il faut quand même faire de l'humour et de la joie. Peut-être pas celle-là, mais d'autres.
Oui, alors... bon, moi je suis écologiste et nous on a un phénomène qui s'appelle l'éco-anxiété. Et malgré tout, Yannick Jadot a dit nous les écologistes, on est les rois du plaisir. Et en fait, je pense que c'est vraiment important d'avoir du plaisir dans l'action. Autrefois, on chantait dans les champs de coton. Même pour aller à la guerre, vous avez des tambours. Et en réalité, pour mouvoir l'homme, pour animer l'action, il faut du plaisir. C'est important. Et en fait, quand on fait campagne, moi je mets un point d'honneur à prendre du plaisir. Je mets un point d'honneur à rigoler avec les gens. Je mets un point d'honneur à ce que ça soit sympa. Et quand on fait une réunion, il faut que ce soit sympa. Quand on fait, et là, félicitations, c'est sympa. Je trouve qu'on passe un bon moment. Et c'est important d'avoir du plaisir.
Le coton, il chantait par plaisir. Hein. Je pense pas.
Hein. Simplement, effectivement, je suis d'accord avec vous, madame. Dans les chants de Canton, le chant, c'était pour tenir le coup. C'était un moyen de résistance. C'était pas du tout pour exprimer. Il n'y a qu'à écouter les chants de travail. Peut-être pas les blues qui ont suivi après, tout ça, mais les chants de travail dans les prisons, etc. C'est assez poignant et c'est assez impressionnant. Sur le plaisir, la joie, moi, je voudrais rappeler que dans les grèves de 1936, ou en 1968, et peut-être dans votre occupation d'entreprise, il y avait des moments aussi de joie, où les gens, dans cette solidarité, ce mouvement, dans cette action, peut-être moins dans les manifs, où c'est un peu plus conventionnel, où c'est pas du tout la même chose, mais quand on lutte directement, je pense que c'est aussi des moments où s'expriment les gilets jaunes sur les ronds-points, il y avait beaucoup de joie aussi. Il y avait, malgré qu'il y avait des témoignages très poignants, des gens qui communiquaient sur leur quotidien, etc. Mais il y avait des moments sympathiques d'échange, de partage et de joie.
Ils ont réappris à partager.
Mais tout à fait. Et au contraire, ça les sortait même de chez eux,
de leur routine.
Et notamment pour les femmes. Et ça leur montrait qu'elles n'étaient plus seules. Et c'était très riche, très important, oui.
C'est peut-être aussi parce que dans une manifestation, il y a l'aspect collectif. Dans le vote, c'est très individuel. On va dans un isoloir, c'est pas rien quand même. On est caché. Ensuite, l'urne, il y a quelque chose de très froid, je trouve. On dit à voter, bon, voilà. Moi, j'ai toujours un petit battement au cœur quand ça arrive, mais il y a quelque chose en effet très solennel, mais du coup, moi, je trouve un peu froid. Alors, est-ce que le fait de... Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai un petit garçon. Quand je vais voter et qu'il est là, du coup, ça m'amuse. Là, je retrouve un moment de joie parce que... Il y a quelque chose de plus simple et de spontané qui se fait. Mais je sais que des gens, parfois, vont au bureau de vote en famille ou même entre amis. Alors, si tant est que le bureau de vote soit le même, évidemment. Mais le fait de se réunir et de faire un vote collectif, il y a aussi cette notion de plaisir qu'on peut retrouver.
Oui, notion de plaisir, oui, puisque moi, je ne m'abstiens pas, puisque je suis d'une famille où on m'a toujours emmené voter, où pour moi, c'est important. Donc non, je ne vais pas m'abstenir. Et c'était un moment de fête, et c'était on va dépouiller, et voilà. Mais ça, c'est ancré dans notre éducation du départ.
Ouais, c'est vrai que ce que vient de dire madame, c'est vrai que dès le départ, le vote, c'était quelque chose d'important. Malgré tout ce que je viens de vous dire, c'était important. Justement, au fil des ans, ça m'a fait réfléchir. Quoi. Alors, c'est ça. Autrement, c'est dommage parce que j'étais quelqu'un... J'aimais assez la politique. Hein.
Le Café Citoyen avec la MJC Espace Hélios de Lombres-les-Doués et Radio Scarpe Sensée.
Enregistré le 2 avril 2022, l'abstention, mauvaise ou bonne idée ?
Oh, je pense qu'effectivement, la joie aussi et le plaisir ne suffira pas à ramener les abstentionnistes dans les bureaux de vote. Quoi. Je crois qu'on assiste aussi à une crise de la démocratie représentative. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est qu'en définitive, entre deux élections, il ne se passe rien. Et en plus, on a l'impression que les principes de la République qui sont écrits dans notre Constitution ne sont pas respectés. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas la dignité des gens en ne leur donnant pas des conditions de vie suffisantes. Et donc tout ça provoque des violences. Et donc, je pense que le moyen de retrouver des électeurs, c'est effectivement d'abord de les respecter, hein, et puis ensuite, ils retourneront dans les bureaux de vote, ça, c'est certain.
On pourrait peut-être faire des élections en dehors des élections, justement, continuer après les élections à trouver des sujets et puis voilà, créer une structure où les gens... Ça existe sur Internet déjà, je pense, hein, mais peut-être le mettre plus en... Des endroits où les gens s'expriment exactement comme ici. Moi, je pense que c'est bien. Là.
Ouais. Tirage au sort à Athènes, 5e siècle avant Jésus-Christ, la démocratie athénienne, elle est fondée d'abord sur le tirage au sort avant de l'élection. Ça, et puis le fait de... Alors là, je pense plus à la notion de président de la République, mais le fait que ce soit des quinquennats, c'est-à-dire qu'on ait raccourci le temps politique et qu'en plus il soit renouvelable, implique le fait qu'on est déjà dans la forme de communication politique que tu disais tout à l'heure, Jackie, c'est-à-dire que l'élection à peine terminée, on va réavoir déjà les premiers sondages de 2027. Ça y est, 2027, voilà, on l'entend déjà de toute façon.
Pas pour le même.
Alors plus pour le même, mais on connaît déjà presque le casting. C'est ça aussi, le renouvellement politique participe, à mon avis, un peu à la frustration qu'on connaît.
Sur le tirage au sort, moi je suis tout à fait d'accord, mais il y a une condition qui est une condition sine qua non. C'est que chacun soit en capacité de pouvoir exercer cette délégation du hasard. Parce que si on a des citoyens qui ne lisent pas le journal, qui ne se documentent pas, qui n'essaient pas de comprendre, ça ne sert à rien de mettre des gens, de dire que c'est le tirage au sort. Le tirage au sort, ça suppose des citoyens responsables et cultivés.
Et comment on va les choisir ?
L'exemple de la Convention climatique citoyenne.
Ouais, mais...
Et là, pour... Ah ben je regrette.
Ouais, comment ça a été
attendez,
fait
attendez. Non, simplement, c'est pas... ils ont été tirés au sort, mais... Ils ont été tirés au sort.
Oh, quel sort ? Moi, j'en connais aucun, j'ai jamais vu. C'est des gens... Enfin, qu'on m'explique la façon dont on tire au sort, d'abord.
Hein ben, oui. Pas... Non, je pense que là, la structure et la personne qui était responsable de ça, j'ai l'impression qu'on peut lui faire confiance. Il y a eu un tirage au sort, ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui sont tirés au sort y vont, parce qu'ils peuvent refuser s'ils ne se sentent pas à la hauteur. Moi, ce qui m'est apparu et que j'ai trouvé très intéressant, c'est que les personnes qui ont participé, qui n'étaient pas du tout des spécialistes, ont rencontré des tas de gens, des spécialistes qui leur ont expliqué, et ça a duré quand même un certain temps, ils ont été formés et ils ont pris des décisions, d'ailleurs le gouvernement n'a pas respecté, mais qui, toutes les, je pense que l'écologiste de service pourra nous répondre, mais toutes leurs propositions étaient intéressantes.
Oui, ça n'a pas été respecté, je suis d'accord avec vous. Les propositions étaient intéressantes. Alors par contre, ce qu'on entend parmi les contradicteurs, c'est que du coup, justement, ils ont été manipulés par des techniciens qui ont amené... Voilà. Alors plutôt que le tirage au sort, parce que... Alors, ça existe, les jurés sont tirés au sort, hein, donc on rend justice... D'ailleurs, il y a une vraie question, parce qu'on voudrait... s'affranchir de ça, mais ça c'est un autre sujet. Mais on tire au sort des jurés pour juger. Là, c'est, en fait, c'est une question de représentativité. Est-ce que c'est une question de capacité à endosser des responsabilités? C'est peut-être un autre sujet. Mais il y a d'autres choses qui sont assez intéressantes. C'est par exemple les élections sans candidat. Les élections sans candidat, c'est intéressant. Vous construisez un collectif et puis ben, à la fin, vous dites... Donc je sais que, par exemple, Pauline Ségard à Villeneuve-d'Ascq, qui s'est présentée aux élections municipales, a été élue par un collectif sans candidat. Voilà. Donc en fait, c'est elle qui a représenté les écologistes à Villeneuve-d'Ascq aux élections municipales. Il n'y avait pas de candidat. C'est les gens qui ont voté pour les personnes qui le... lui semblait intéressante. Et par exemple, ça pourrait être intéressant pour les élections, je ne sais pas, même les délégués de classe, ça pourrait être rigolo, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes, et on parlait justement de la représentativité des femmes, bah, y a peut-être des personnes qui, à un moment donné, ne se sentent pas capables d'eux, qui se disent que, mais qu'en fait, toutes les personnes qui sont autour d'elles se disent, en fait, c'est la personne qu'il nous faut. Et l'élection sans candidat, c'est un truc intéressant qu'il faudrait peut-être plus expérimenter, je trouve.
La politique, ça s'incarne quand même. Je pense que voilà, faut pas être naïf de cela. Et on le voit bien, on a des programmes politiques parfois qui sont tout à fait bien. Pourtant, le candidat en question ne réalise pas de bons scores parce que justement, c'est lié à lui. Et à l'inverse, on a des programmes politiques qui sont peut-être moins intéressants. Mais le candidat fait que ça va fonctionner. Et si le candidat joue, le ou la, évidemment, c'est parce qu'à un moment donné, il y a aussi des rapports humains qui se jouent, et heureusement d'ailleurs. Donc la notion est hyper intéressante à construire, à développer. Mais pour autant, moi, je reste attaché à l'incarnation politique parce que c'est ce qui fait le point de bascule. Pour donner un exemple précis sur l'élection là, qui est en train de se jouer, puisqu'on parle de l'abstention, il y a plein de projets politiques qui sont intéressants au regard évidemment des convictions, des valeurs des uns et des autres. À gauche, celui qui monte, c'est Mélenchon parce qu'il incarne quelque chose. Les autres ne l'incarnent pas. Ça se joue plus sur le candidat que sur le projet en lui-même, j'en suis convaincu. D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui on vote beaucoup sur un projet? Macron est la preuve que non. On a quand même eu un président en 2017 qui a incarné, je reviens à cette notion, qui a incarné un ni droite ni gauche, on bascule, on change le système, donc il a suscité des espoirs malgré tout, et qui pourtant, quand on interrogeait ses électeurs, n'était pas en capacité de donner plus de 2 mesures de son programme. Et la seule qu'on a retenue, c'était la taxe d'habitation supprimée. Sans penser d'ailleurs aux conséquences que ça implique.
Est-ce que je peux faire un petit commentaire sur les 2 sons de cloche que je viens d'entendre? Oui, mais tout est toujours complémentaire et réciproquement. Mais j'ai l'impression que d'un côté, on oppose le jeu de stratégie au jeu participatif de l'autre côté. Et ça résume peut-être un petit peu ce qui se passe dans la tête de tout le monde en ce moment, dans les choix de société. Est-ce qu'on laisse... toujours les mêmes, gérés pour tout le monde? Est-ce qu'on participe un peu? Est-ce qu'on choisit toujours le plus cher? Est-ce qu'on fait des économies? Je pense que c'est un peu dans la même mouvance. Peut-être que je ne l'exprime pas très très bien, mais... Là, on est dans le rituel romain. Là, il y a le chef, on se bat, c'est pour tel camp. On montre ses armes. Et puis, moi, je vais gagner parce que je suis plus fort que toi, parce que mes idées sont plus fortes. Pas mes armes, mais mes idées sont plus fortes. Et donc, je vais gagner. Et peut-être à ça, on pourrait opposer. Ben oui, on pourrait peut-être faire des élections sans candidat, effectivement. Et c'est peut-être les idées qui sont plus importantes. Et puis est-ce qu'on est sûr de ces gens et qu'est-ce qu'ils gagnent? Moi, je ne sais même pas ce qui va y gagner. Président, et voilà.
Et moi, je vais faire le lien entre les deux, par contre. Parce que je pense que l'incarnation, elle peut se faire aussi dans le combat. Je vois bien, à la France insoumise, il y a des jeunes qui, aujourd'hui, incarnent une politique qui n'était pas là il n'y a pas longtemps. J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur le siècle des couturières où une vieille dame expliquait dans les années 68, elle était toute jeune, elle devait avoir 17, 18 ans, et qui a été portée, elle ne cherchait pas à militer, rien du tout, mais dans le combat, elle est devenue la représentante de l'ensemble des salariés et ça a construit sa vie. Et elle est devenue quelqu'un qui a représenté toute une profession, enfin une usine en tout cas, une entreprise. Donc l'incarnation, elle bouge. C'est pas simplement des anciens qui représentent toujours la même chose. Elle évolue, oui.
C'est pas ce que je veux dire pour Represser, c'est vraiment au sens humain du terme. Ce que je veux dire, c'est que quelles que soient les idées, c'est vraiment dans l'incarnation politique que parfois le vote se joue aujourd'hui. De toute façon, il y a une part d'irrationnel dans le vote. Je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus d'irrationalité que de rationalité. Et les idées, effectivement, sont importantes, mais je pense qu'on se trompe si il suffisait de présenter un programme aussi parfait soit-il et que ça fonctionnerait. Je pense qu'on se trompe, malheureusement ou heureusement. La démocratie fait que il y a plein d'autres aspects qui rentrent en compte, dont la personnalité du candidat ou de la candidate, à son dépens ou à son avantage. C'est ce que je voulais vraiment dire.
Alors moi, tu vois, dans ma logique où je vais voter aux deux tours, quoi qu'il en soit, le vote du premier tour, c'est pas le candidat qui m'invite à le faire, c'est son programme. C'eût été un autre représentant pour le même programme, mon vote aurait été le même. Voilà, parce que c'est plutôt ça. Et c'est ce qui va faire que, finalement, je vais même continuer, moi, je sais quoi qu'il en soit, voter au deuxième tour, peut-être pour un vote d'adhésion, peut-être pour un vote contre. Voilà, c'est...
Pour moi, l'élection sans candidat n'exclut pas une incarnation. C'est-à-dire qu'en réalité, si on pose la question au candidat, si c'est quelque chose qui est valide, le fait qu'il faut absolument incarner, on fait une élection sans candidat, les personnes vont choisir la personne qui incarne. Donc d'une certaine manière, en réalité, ça donne peut-être juste plus de crédit à cette incarnation. Mais après, sur le côté, effectivement, il faut une personne... Je pense que c'est aussi quelque chose à déconstruire, en réalité. C'est-à-dire qu'il faut proposer un programme plutôt qu'une personne, et peut-être même, justement, ne pas avoir quelqu'un qui est là depuis quatre mandats.
Mais en même temps, on sent bien, par exemple, que tu vois, la presse et de façon générale, les médias ont été super déstabilisés. Je reviens là-dessus, sur les Gilets jaunes, parce que qui avait légitimité à incarner et à représenter. On se rend compte qu'à ce moment-là, ça a tout à fait ses limites, là, parce que à qui on donne légitimité pour porter la parole et donc pouvoir s'adresser au plus grand nombre.
Mais alors du coup, je vais t'opposer François Hollande. En fait, on sait toutes et tous qu'en fait, ce n'était pas lui qui était prévu. Et pourtant, il a remporté l'élection. Donc en fait, on a un contre-exemple. Après, je ne sais pas, faites-en ce que vous en voulez, mais...
Non, il a fait une campagne, malgré tout. Enfin, voilà, quoi. Il n'est pas non plus... Voilà, il a incarné.
Mais des élections sans candidat, ça existe. Par exemple, dans certains petits villages, il y a des gens qui ont été élus maires sans avoir déposé leur candidature. Et ça, c'est impressionnant. Mais c'est au niveau d'une petite collectivité. Un peu comme en Suisse, on peut faire des votations parce que c'est des petites collectivités. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne se détestent pas non plus, entre parenthèses. Mais ça veut dire qu'ils peuvent encore être dans la relation directe, quoi. Nous, on est dans une démocratie où on est obligé pour... C'est ça notre malédiction. On est obligé de déléguer pour pouvoir gouverner en tant que citoyen. Et on doit donc passer par un filtre qui est quelqu'un à qui on fait une confiance relativement mitigée, quoi.
Voilà pour la deuxième partie de ce café citoyen organisé par la MJC Espace Hélios de Lambre-les-Doués et Radio Scarpe Sensée, enregistré à la médiathèque de la MJC Espace Hélios le samedi 2 avril sur le thème l'abstention, bonne ou mauvaise idée. Vous retrouvez la première partie de ce café citoyen sur le site www.radioscarpesensée.com et puis auprès de la MJC Espace Hélios de Lambre-les-Doués pour connaître les dates des prochains et les thèmes des prochains cafés citoyens co-organisés avec Radio Scarpe Sensée et la MJC Espace Hélios de Lambre-les-Doués. Merci de votre attention et à bientôt.